c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Alexandra. Même si aucun des marins du porte-avions Charles de Gaulle ne suscite d'inquiétude particulière aujourd'hui, tous, malades ou non, ont débarqué ce dimanche à Toulon pour y être testés et mis en quarantaine au sein de la base navale. Quant à l'origine de cette contamination au coronavirus, le mystère demeure entier. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est dit favorable aujourd'hui à la réouverture de tous les marchés en plein air, mais aussi des halles alimentaires, tant que les normes de sécurité sanitaire sont respectées. Rappelons que les marchés avaient été contraints de fermer le 24 mars dernier, suscitant aussitôt l'indignation des maraîchers qui avaient dénoncé une inégalité de traitement avec la grande distribution. On les appelle des fonds vautours et en ces temps de crise et de chômage partiel, ils rôdent. Illustration dans ce journal avec notamment les inquiétudes exprimées par les salariés de la halle aux chaussures dont près de 900 magasins sur tout le territoire sont actuellement fermés à cause du coronavirus. Enfin, en ce week-end, Pascal, nous irons à Mulhouse, à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, c'est-à-dire à l'endroit même où le virus aurait pu se propager. C'était il y a 2 mois, presque jour pour jour.
France Inter.
Ils ont donc fini par accoster avec 10 jours d'avance sur la mission prévue. Les marins du porte-avions Charles de Gaulle ont rejoint ce dimanche leur port d'attache à Toulon pour une opération logistique de débarquement aussi lourde qu'inédite. Au total, ce sont plus de 1900 militaires qui vont devoir être confinés pour un isolement sanitaire de 2 semaines pour cause de coronavirus. Au moins 50 d'entre eux ont en effet d'ores et déjà été testés positifs. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors on sait que le navire n'avait pas été en contact avec un élément extérieur depuis sa dernière escale à Brest. C'était le 15 mars dernier. Cela signifie, Nathalie, qu'il s'est donc passé 3 semaines entre ladite escale et l'apparition des premiers cas. C'est plus que la 14aine habituellement retenue pour prévenir la contagion. Mais surtout, l'origine de cette contamination demeure donc inconnue.
Oui, pour l'instant, cela reste une énigme puisqu'on évoque en général un risque de contagion pendant les 2 semaines suivant l'exposition au virus. Il faudra donc attendre les résultats de l'enquête des épidémiologistes du service de... Il y a eu d'abord les prélèvements qu'ils ont effectués sur le Charles de Gaulle, ce qui a permis de révéler la contamination.
Alors, Nathalie Hernandez, est-ce que nous allons vous retrouver? Je crois qu'on a perdu la communication. Alors le Charles de Gaulle est en réalité le 2e porte-avions dans le monde, officiellement donc en proie à cette épidémie galopante de Covid-19. Avant lui, un bâtiment américain, le Theodore Roosevelt, avait déjà été signalé comme contaminé par la pandémie et à bord, plus de 10% des 4800 membres d'équipage y ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Toujours aux États-Unis, les arbres en fleurs de la 5e avenue n'y changent rien sans ces sirènes hurlantes et son trafic incessant. En temps de coronavirus, la ville de New York n'échappe pas à l'impression de ville morte. Outre ce silence, il y a aussi les images, comme celle filmée avec un drone par un média local, montrant des dizaines de cercueils rudimentaires en cours d'inhumation dans une fosse commune sur une île située au nord-est du Bronx et surnommée depuis longtemps déjà l'île des morts. Hier, les États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas de contamination au monde, plus d'un demi-million, ont également franchi la barre des 20 000 personnes ayant succombé au virus. Outre les États-Unis, mais aussi l'Italie qui frôle depuis hier le cap des 20 000 morts, même si le nombre de décès quotidiens continue de baisser, les bilans de la pandémie se sont encore aggravés. Au Royaume-Uni tout d'abord, avec plus de 900 morts comptabilisés 2 jours de suite dans les hôpitaux, sans compter les maisons de retraite. La Grande-Bretagne est le pays d'Europe où le Covid-19 est le plus meurtrier actuellement. La barre des 10 000 morts a par ailleurs été franchie aujourd'hui. Un soupir de soulagement en revanche marque peut-être la fin d'un feuilleton outre-Manche qui dure depuis plusieurs semaines. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du Covid-19, est sorti ce dimanche de l'hôpital où il était traité depuis 1 semaine.
Je viens de quitter l'hôpital après une semaine lors de laquelle le NHS a sauvé ma vie. Aucun doute là-dessus. Il m'est difficile de trouver les mots pour exprimer une telle dette. Même si nous pleurons chaque jour ceux qui nous sont enlevés en si grand nombre, même si la lutte est loin d'être terminée, nous faisons des progrès dans cette incroyable bataille de la nation tout entière contre le coronavirus. Un combat que nous n'avions jamais eu à mener contre un ennemi que nous ne comprenons pas encore complètement. Nous faisons des progrès dans ce combat car les Britanniques ont formé un bouclier pour protéger le bien le plus précieux de notre pays, notre système national de santé. C'est pourquoi nous vaincrons ce coronavirus et nous le vaincrons ensemble.
That is why we will defeat this coronavirus and defeat it together.
Voilà, Boris Johnson, traduit par Omar Wahman, le Premier ministre britannique, qui va donc poursuivre sa convalescence, laissant pour l'instant à son gouvernement la gestion de la crise. Nous vous avons retrouvé, Nathalie Hernandez, en dépit donc d'une liaison capricieuse. Nous évoquions ce Charles de Gaulle donc qui a accosté aujourd'hui à Toulon. Le Charles de Gaulle où une cinquantaine de marins ont été testés positifs au coronavirus. Et l'origine de cette contamination donc demeure inconnue, Nathalie.
Oui, elle reste énigmatique. Hein. Il faudra attendre les résultats de l'enquête des épidémiologistes du service de santé des armées. Il y a eu d'abord les prélèvements qu'ils ont effectués sur le Charles de Gaulle, ce qui a permis de révéler la contamination de 50 marins. Il y aura ensuite les tests qui vont être réalisés sur tous les autres, soit 1900 militaires. À partir de là, les scientifiques pourront en dire plus. Depuis cet après-midi 16h, à bord de bus, de véhicules et de vedettes, les 1900 femmes et hommes du Charles de Gaulle et de la frégate Chevalier Paul ont été placés en quarantaine à Toulon, soit à l'hôpital Sainte-Anne, soit dans ses environs sur des bases militaires comme celle de Saint-Mandrier où se trouve le commando Hubert des forces spéciales. Une opération qui a demandé, vous l'imaginez bien, une logistique précise et millimétrée pour éviter tout contact entre ces marins et l'extérieur. Pendant leur isolement de 14 jours, ils resteront sous surveillance médicale avant de pouvoir rejoindre leur famille. Le porte-avions et la frégate seront, eux, désinfectés à compter de mardi.
Merci Nathalie Hernandez. En France, il y a eu 315 décès supplémentaires dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Santé. Le solde de cas en réanimation est lui négatif pour le quatrième jour consécutif. La crise toujours est encore en Belgique où le nombre de décès a lui triplé en revanche en une semaine. Et puis en Espagne, là-bas, le bilan quotidien est lui reparti à la hausse ce dimanche, alors même qu'il était en baisse depuis trois jours, et en particulier grâce aux strictes mesures de confinement. Des mesures qui doivent d'ailleurs être prolongées jusqu'au 3 mai. En revanche, les salariés de certains secteurs, comme par exemple celui de la construction, seront eux autorisés à reprendre le travail dès lundi, ce qui fait déjà craindre à certains une reprise de l'épidémie. C'est une correspondance à Madrid signée Mathieu de Taillac.
Le retour au travail de certains employés ne lance pas le début du déconfinement. C'est le message qu'a encore répété le président du gouvernement espagnol cet après-midi en conférence de presse. Je veux être très clair, a indiqué Pedro Sanchez, nous ne sommes même pas dans une seconde phase. La désescalade commencera au plus tôt dans deux semaines. Elle sera progressive et prudente. Le confinement général continue pendant au moins les deux prochaines semaines. Fin de citation. En clair, demain, les salariés des usines et sur les chantiers pourront se rendre à nouveau sur leur lieu de travail. Les activités jugées non essentielles pourront relancer la machine. C'est la fin de ce que Madrid appelle l'hibernation de l'économie. Mais il faudra mettre des masques, le gouvernement en distribuera 10 millions, et respecter une distance de 2 mètres entre les personnes. Pour le reste, le confinement reste toujours aussi sévère en Espagne, le jogging ou l'activité physique ne sont pas considérés comme des motifs de sortie valables, et les enfants n'ont pratiquement aucune occasion de mettre un pied dehors. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Alors, on l'a bien compris, partout, la problématique reste au fond la même. Quand et comment lever les mesures de confinement? Ni trop tôt, au risque de voir une nouvelle flambée de l'épidémie, ni trop tard, au risque d'alourdir une fracture économique déjà extrêmement douloureuse. En France, Emmanuel Macron devrait annoncer demain soir le prolongement de la durée du confinement au-delà du 15 avril. Jusqu'à quand, c'est évidemment toute la question. Et puis, sous quelles conditions? Ce matin, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a par exemple appelé les maires et les préfets à favoriser la réouverture des marchés alimentaires quand les mesures de sécurité sanitaire sont respectées. Une mesure aussitôt saluée par Monique Rubin. Elle est la présidente de la Fédération des marchés de France et elle répond à Fabien Cazot.
C'est une très sage décision qui était appelée de nos voeux depuis maintenant plusieurs jours. Il était quand même indispensable que l'ensemble de nos marchés sur le territoire puissent réouvrir pour offrir à nos consommateurs tout le choix qu'ils sont en droit d'attendre et vraiment qu'ils puissent trouver l'ensemble des produits qui composent les marchés aujourd'hui. Le consommateur, lorsqu'il vient sur le marché, il a besoin de trouver son poissonnier, il a besoin de trouver son boucher, son crémier et ses producteurs. Il faut que tout ça soit ensemble dans le respect des règles sanitaires qui sont exigées et de ce fait, nos consommateurs pourront faire leurs courses en toute sérénité. Et bien sûr, toutes les règles seront respectées.
Voilà, Monique Rubin, présidente de la Fédération des marchés de France. Alors, on le sait, le gouvernement avait interdit, c'était fin mars, tous les marchés ouverts. Mais en laissant au préfet la possibilité de déroger à cette règle sur demande d'un maire. Et c'est ainsi que près d'un quart des quelques 10 000 marchés alimentaires ont reçu depuis l'autorisation d'ouvrir dans des conditions sanitaires strictes, essentiellement dans des bourgs de taille moyenne, mais aussi dans quelques capitales régionales. Cartographie donc de ces marchés rouverts ou non d'ailleurs en France avec Fabien Cazot.
C'est logiquement dans les zones les plus densément peuplées que les marchés ont le moins rouvert. Marchés interdits à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. À Lyon, aucune ouverture non plus, ni dans le Var ou le Vaucluse. Dans les départements plus ruraux, les ouvertures se sont parfois faites au compte-gouttes, comme dans l'Aveyron où seul un petit marché du village a pu rouvrir. Plus étrange, à Caen ou dans plusieurs localités ardéchoises, une condition a été fixée qu'il n'y ait que des étals de producteurs locaux. Rien à voir avec des critères sanitaires, s'étonnent les organisateurs de marchés, qui se réjouissent d'avoir pu d'ores et déjà rouvrir quasiment partout dans la Drôme, le Morbihan ou encore la Gironde. Les situations sont donc très contrastées en fonction des départements. En tout, au niveau national, environ un tiers des marchés ont pu rouvrir, quasiment exclusivement dans des villages et des petites agglomérations et dans des formats réduits avec moins d'une dizaine de commerçants.
Et puis on appelle cela une procédure de sauvegarde, Thomas, parce qu'elle permet justement de protéger un maximum de trésorerie.
Oui, et selon nos informations, cette procédure donc devrait être déclenchée en milieu de semaine prochaine par la direction du groupe Vivarte, propriétaire de la halle aux chaussures, dont les magasins, près de 900 sur tout le territoire, sont actuellement fermés à cause du coronavirus. Une bonne nouvelle donc a priori, puisqu'une telle procédure devrait notamment laisser à l'entreprise la possibilité de reporter le paiement de ses loyers. Reste évidemment à connaître les intentions réelle de la direction, et à ce titre, Jean-Louis Alfred de la CFDT Vivarte, joint par Maxime Deps, n'est pas dupe de la situation.
Moi, j'ai tendance à dire que c'est la logique, en fait, des fonds qui nous détiennent depuis maintenant 5 ans. Vous savez qu'on est en plein démantèlement, donc c'est le pire du pire. C'est-à-dire aujourd'hui, ils font quoi? Ils sont en train de demander à l'État de venir éponger, à la limite, les pertes de liquidité qu'ils pourraient avoir, mais c'est dans leur ADN. C'est-à-dire, c'est du fonds vautour, c'est du fonds spéculateur. Vous voyez, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on est confiné, donc il y a fermeture de magasins. Il y a une semaine déjà, ils faisaient un appel sur France 2 sur les problèmes de fermeture de magasins et ils voulaient se faire aider pour payer leur loyer. Donc je vous dis, l'ADN de ces fonds anglo-américains, c'est de perdre le moins d'argent possible et d'en gagner si possible même sur le dos d'une crise. Le souci qu'on a nous, c'est que si on était sûr que ça profite aux salariés qui vivent une misère monstre, des femmes isolées pour la plupart, bah, on dirait bravo, sauvegarder l'entreprise, mais jusqu'à maintenant, bah, ils continuent à dépecer. L'objectif final de ces fonds, c'est de passer cette crise avec un gain probable à l'arrivée si l'État vient les aider.
Futur foyer de propagation du virus ou lieu possible de confinement pour les étrangers en procédure d'expulsion. Voilà plusieurs semaines déjà que les centres de rétention administrative font l'objet d'un bras de fer entre le gouvernement d'un côté et les défenseurs des migrants de l'autre. Alors fin mars, le Conseil d'État avait a priori tranché le débat en décidant que ces établissements pouvaient rester ouverts. Selon la haute juridiction administrative, le maintien en rétention ne serait pas un facteur d'évolution de l'épidémie. Reste que la nuit dernière, près d'une cinquantaine d'hommes enfermés dans le centre du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne sont sortis dans la cour du bâtiment pour dénoncer des mauvaises conditions sanitaires et réclamer leur libération. Et malgré l'intervention de la police ce matin, eh bien la situation sur place reste explosive, Corinne Audouin.
Tout a commencé hier soir dans ce centre de rétention tout proche de Roissy. Ils sont une cinquantaine encore présents au Ménil-Amelot. La plupart des vols étant suspendus, il est impossible de leur faire quitter la France. Selon leur témoignage, aucune mesure sanitaire n'a été prise pour empêcher l'entrée ou la propagation du virus. Alors les retenus du Ménil-Amelot ont décidé de dormir dans la cour. Selon leur récit, les CRS sont intervenus ce matin. Une demi-douzaine, identifiés comme meneurs, ont été déplacés. Nous avons pu joindre Gabriel, un retenu de nationalité roumaine.
Pourquoi nous tenir ici? Il n'y a pas d'avion. Pourquoi? Pour qu'on risque d'être malade. Les policiers, ils n'ont pas de masque, ni gants. Ils ne testent pas les personnes qui rentrent à l'intérieur du centre. Quand on mange, on est un à côté de l'autre, on est une vingtaine, trentaine. On est coude à coude. Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde.
Sollicité, le ministère de l'Intérieur explique qu'il n'y a plus que 180 retenus dans toute la France et rappelle que le Conseil d'État a rejeté la demande de fermer tous les centres de rétention. Depuis, le syndicat des avocats de France a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la fermeture du centre de Vincennes ou au moins Un cas de Covid-19 a été dépisté. L'audience est prévue mardi prochain.
Si la crise appelle souvent des mots pour la dire et la traverser, parfois en rire, et pour la dépasser, il arrive aussi que les mots ne suffisent plus, d'où cette initiative de solidarité entre le monde de la culture d'une part et le monde associatif de l'autre. À Marseille, la friche La Belle de Mai, pôle de création de la cité phocéenne qui était fermée depuis le 12 mars dernier, vient de rouvrir ce week-end pour accueillir des sans-abri, 30 personnes au total, Stéphane Capron, qui vont être hébergées donc, et suivies par le groupe SOS Solidarité.
La friche La Belle de Mai était vide depuis le début des mesures de confinement. Alors Alain Arnaudet, son directeur, n'a pas hésité à mettre à disposition des sans-abri les logements habituellement destinés aux résidences d'artistes.
Nous menons de nombreuses actions pour l'ensemble de la population, de toute origine sociale et culturelle. Donc pour nous, c'est un axe fort de notre action. La question sociale est très importante aujourd'hui. On parle beaucoup de santé, c'est normal, c'est important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux démunis qui ne savent pas où dormir, ne savent pas comment manger. Et pour nous, il est inconcevable de ne pas être solidaire d'une manière générale.
Les sans-abri sont logés dans deux maisons d'une quinzaine de places, chacune dans des chambres individuelles avec sanitaire. C'est le groupe SOS Solidarité qui se charge de veiller sur les sans-abri pendant leur confinement. Pascal Fréchard est le directeur délégué régional du groupe pour les Bouches-du-Rhône.
Ça va faire des petites unités où les gens vont être dans de bonnes conditions pour être confinés. Et nous, on met à disposition aussi des personnes, des équipes mobiles, des médecins et des infirmières qui se déplacent pour venir veiller à la santé des personnes sans domicile fixe qu'on a hébergé dans les hôtels.
Le groupe SOS Solidarité continue de chercher d'autres lieux en France et pourquoi pas d'autres résidences d'artistes inoccupées pour loger des SDF.
Alors on l'a déjà dit et répété, l'heure n'est pas aujourd'hui au déconfinement, bien au contraire. Et en ce week-end, Pascal, ensoleillé, les autorités avaient justement décidé de renforcer les inspections. Yann Gallic a assisté donc à un après-midi de contrôle à Chelles, en bord de Seine-et-Marne, département où la préfecture a interdit les promenades sur les chemins de halage et les berges.
Bonjour, c'est là.
Bonjour.
L'accès à la passerelle est interdite.
Ah bon ?
Parc et jardin, espace forestier, berges et chemins de halage. Tout ce qui est bord de Marne, c'est interdit. Alors là, je fais du préventif, mais normalement, c'est, à partir de ce moment-là, c'est du répressif, hein, normalement. D'accord ?
Vous venez de vous faire contrôler par la police. Vous ne saviez pas que vous n'aviez pas le droit de longer la
Marne ?
Non,
non, non. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu le papier.
Vous êtes tombé sur un policier compréhensif.
Voilà, exactement. Et merci beaucoup. Hein.
Je vois que vous avez un enfant, un fils. Tu as quel âge ?
9 ans.
Est-ce que ça commence à être dur au bout de 4 semaines de confinement ?
Bah ouais, tout à fait, parce que bon, on en a un peu marre, vu qu'on est en appartement, lui, on peut pas trop sortir. D'être enfermé, c'est pas marrant.
Ah oui, c'est pas évident. Hein.
Afin d'éviter la propagation du Covid-19.
Manon Dautefeuille, commissaire de police à Meaux, donc là je suis commissaire de permanence.
À quoi ça vous sert le drone ?
Ça nous permet de repérer les personnes sur les rives, notamment de la Marne ou sur le canal de l'Ourcq. Le drone peut aussi passer un message de prévention. En journée, il n'y a pas forcément énormément de promeneurs. En soirée, il y a peut-être un petit peu plus de problèmes avec des jeunes qui se rassemblent pour prendre l'apéro ou pour faire des barbecues. C'est pour ça qu'on a intensifié les contrôles en soirée. Mais l'immense majorité de gens restent à la maison, respectent les contrôles. Dans la majorité des cas, je trouve que ça se passe plutôt bien.
Voilà, un reportage signé Yann Gallic. C'était il y a presque 2 mois, autant dire aujourd'hui une éternité, alors que la préfecture du Haut-Rhin venait de décider de la fermeture de 3 écoles. Le ministère de la Santé appelait, lui, les participants à un rassemblement organisé par une église évangélique à Mulhouse à se surveiller après la découverte de plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus. Sur les 212 cas identifiés à l'époque en France, 7 l'étaient dans le Grand Est, dont 5 au sein d'une même famille, tous contaminés au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes sur le site de l'église La Porte Ouverte Chrétienne dans le quartier de Bourseviller. Et bien évidemment, en ce week-end, Pascal, on imagine que pour cette église évangélique, ce dimanche avait un goût particulier, notamment pour son pasteur principal, Samuel Peter Schmidt, de même que son fils, Jonathan, médecin en Alsace, tous deux atteints du Covid-19, ont guéri. Et cette fois-ci, c'est bien confiné et à distance que la famille a donc célébré cette journée de Pâques. Faustine Calmet, la joue au téléphone Jonathan Peter Schmidt.
Je dirais qu'on peut prier ensemble via des applications, via le téléphone, et finalement ça garde la même valeur, la même saveur, dans le sens où on est unis tout en étant éloignés. Ce matin, on a eu la joie de réentendre mon papa intervenir dans l'église, façon de parler, puisque c'était une intervention sur Internet. Notre souffrance et les temps finalement par lesquels nous passons aujourd'hui, mis en perspective de la PAC, mis en perspective finalement de notre vécu, la maladie et la mienne, celle de mon père, mais en particulier et surtout tous ceux qui dans notre assemblée souffrent encore aujourd'hui, ceux qui ont perdu des êtres chers. On a quand même de nombreuses personnes qui sont décédées dans notre église, puis aussi le souvenir de tous ceux qui, en dehors même de notre communauté, sont dans la souffrance. Et finalement, le sens de la Pâque, c'est la souffrance de Dieu venu sur terre et sa résurrection. Alors, quel plus bel espoir que celui-ci quand on croit.
Voilà une messe sur Internet donc aujourd'hui pour l'église de la Porte Ouverte chrétienne. En revanche, à l'église traditionnaliste Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, une messe pascale clandestine s'est tenue la nuit dernière en présence d'une quarantaine de fidèles. Le prêtre a été verbalisé pour non-respect du confinement ou quand pour le salut éternel, mieux vaut encore s'en remettre donc aux enfants. Parole d'évangile avec Juliette, 5 ans.
S'il connera Jésus, il pique les cloches, toutes les cloches. Alors, on n'aura pas de cloche, hein. Eh ben, on doit encourager les cloches et quand ils viennent, on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains. Comme ça, ils vont prendre de la vitesse et dépasser le coronavirus pour donner tous les œufs. Peut-être dans des arbres, sur les toits ou partout. En fait, on n'a pas besoin de jardin. Nous, on peut pas savoir où ils lâchent parce que eux, ils lâchent partout. Ils lâchent, c'est tout.
Comment est-ce qu'elle dit, Juliette? Le coronavirus. Elle est charmante. C'était le journal de Thomas Cluzel.